Parmi les nombreux détracteurs de Jordan Peterson, un en particulier, son ancien ami et collègue Bernard Schiff, a pris la peine de publier une longue mise en garde dans un quotidien torontois. En plus de provoquer controverses et scandales, Jordan Peterson est-il dangereux? Si oui, pourquoi? Vous écoutez Après coup.
Aujourd'hui, on continue notre partie numéro 3 à propos de Jordan Peterson, notre obsession à propos de Jordan Peterson.
Ben, obsession, pas capoter non plus.
L'idée étant, pour moi en tout cas, c'est pas tant juste le contenu. En fait, il y a deux choses. J'allais dire, c'est pas tant le contenu nécessairement ou ses idées qui m'interpellent toujours tant que ça, bien que parfois certaines d'entre elles. Mais il y a la popularité qu'il a, donc la portée de son message, mais aussi et surtout que tant de gens voient son discours comme étant dangereux.
Oui.
C'est fort comme terme. Si des gens disaient... il y a plein de choses qu'on peut dire sur un discours. Là. Il est à droite, c'est mal fondé, il tourne les coins ronds, c'est quelqu'un qui utilise des images pour faire illustrer son propos, mais à l'excès, il comprend mal, blablabla. On peut dire plein de choses sur un discours. Moi, ça ne m'émeut pas particulièrement qu'on soit en désaccord sur des choses que des gens disent.
Mm-hmm.
Mais là, de dire de son discours, puis plusieurs personnes, ça représente un danger, c'est dangereux, il faut donc s'y opposer. Donc, ça appelle la question, évidemment, c'est d'où est le danger? Où est le danger?
Oui.
Et pour en rajouter, c'est que moi, j'ai en plus, c'est que j'ai cette grande difficulté à voir le danger dans un discours.
En général.
En général, oui. De la même façon, parce que c'est comme je te disais tantôt, tu sais, quelqu'un, un patient vient nous voir, puis tu sais, un patient qui est sceptique, qui est déprimé, qui a un discours négatif, qui n'aime pas son patron, qui se trouve qu'il a de la misère à endurer sa femme, tout ça. Mais de dire que ce discours-là est dangereux, non pas pour lui, mais pour les effets que ça pourrait avoir sur d'autres gens à qui il tient ses propos.
Oui, c'est ça.
Il y a quand même un saut logique quand même.
Oui, c'est ça. Quand tu évalues la dangerosité ou la dangerosité suicidaire, homicidaire ou autre, agressive, face à quelqu'un, tu es face à quelqu'un.
Ouais.
Quand tu évalues la dangerosité d'un discours, premièrement, tu n'es pas face à quelqu'un. Puis ce que tu ajoutes comme dimension, c'est l'effet possible, réel ou imaginé, de ce discours-là sur des gens que tu imagines.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a une double imagination.
C'est ça. La dangerosité d'un Jordan Peterson ou d'un Donald Trump. Pas qu'il se ressemble, mais pas du tout. Mais c'est en vertu de sa dangerosité que Donald Trump a été banni de Twitter.
Ouais.
La dangerosité de son discours, les risques de dérapage...
sont multipliés.
Oui.
Automatiquement.
Oui.
Oui, c'est ça, parce que...
C'est comment t'imagines les personnes qui écoute un Jordan Peterson? Ou comment t'imagines les personnes qui écoutent un Donald Trump? Puis ce que tu vas entendre souvent, puis c'est pas du tout que je compare Peterson à Trump, sinon pour la crainte exprimée de l'effet de leur discours sur des âmes perméables.
Oui, c'est ça. C'est oui, ça. Parce que, tu sais, quelqu'un qui dirait « Moi, j'aime pas ce style de musique, j'aime pas la musique heavy metal parce que je trouve que ça m'amène dans des zones que j'aime, dans lesquelles je veux pas être. J'aime pas ça. Parfait, mm-hmm. J'ai pas de problème avec ça. Ou j'aime mm-hmm. pas telle personne qui a un style pamphlétaire, très satirique, c'est négatif, il est trop de cynisme, j'aime pas. C'est parfait, c'est tout le monde a le droit d'écouter les discours qu'ils veulent. Mais là, de dire, non, ce discours-là, qui est pamphlétaire, disons, moi, je le prends parce que moi, j'ai la maturité, mais je pense que certaines personnes vont être influencées négativement par ce discours et à cause de la validité de cette supposition-là, je propose de la censurer.
Oui, oui, ou je me propose pour mettre en garde la population contre le discours. T'sais, je veux vous protéger des effets négatifs sur vous, que j'imagine, de ce discours-là. Fait que je vous mets en garde. J'écris un article dans le journal. Je sonne l'alarme. Je suis lanceur d'alerte.
Mais là, puis pour être précis, donc, ce qui m'a aussi interpellé, ce qui nous a interpellé spécifiquement par rapport à Jordan Peterson, c'est qu'il y a une personne, Bernard Schiff, qui est un collègue à lui, qui est un professeur, un ancien professeur de psychologie à l'Université de Toronto, qui écrit un article en 2018 dans le Toronto Star?
Oui.
Dans le Toronto Star, qui dit « J'ai connu Jordan Peterson, je l'ai apprécié, c'était un ami, je l'ai accueilli à l'université, je l'ai accueilli chez moi. Aujourd'hui, par cet article, je prends la parole. » C'est pas de gaieté de cœur, c'est quasiment mon corps défendant, mais je crois que c'est important. Je crois qu'on a affaire à quelqu'un de dangereux.
Oui.
Non, là, c'est sûr, OK, mais là... Puis j'en ai fait allusion dans le premier podcast. Mais là, je suis allé le relire. Donc, qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Qu'est-ce que cette personne-là sent le besoin vraiment d'avertir ses concitoyens, ses compatriotes? Mm-hmm. On a affaire à quelqu'un de dangereux.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il dit?
Ben, Jordan Peterson est dangereux. D'abord, ce qu'il raconte dans sa lettre, c'est l'évolution de leur relation. C'était quelqu'un d'excentrique, un jeune PhD qui avait fait une petite incursion à Harvard, tu sais.
Ouais.
Déjà, dans le choix des mots, là, c'était schtick ou slit, ou une petite incursion à Harvard, mais
quasiment en catimini pour pouvoir le dire.
Non? C'est ça. En tout état de cause... Peu importe, il est arrivé à l'Université de Toronto, a posé sa candidature pour un poste de prof de psychologie et malgré son excentricité, sa bizarrerie, lui, ce monsieur Bernard Schiff, l'a pris en affection et a milité auprès de ses collègues pour qu'on lui propose un poste de professeur, ce qu'il a eu donc grâce à lui. Et les promotions qui ont suivi ont dû aussi être défendus parce que les autres professeurs du département de psychologie de l'Université de Toronto demeuraient sceptiques. Le monsieur était trop excentrique, était bizarre, etc. Mais grâce à lui, Bernard Schiff, qui est maintenant professeur retraité, ou au moment d'écrire ses lignes, était à la retraite.
Ouais. Puis quand, est-ce que juste quand tu dis excentrique, dans l'article, c'est beaucoup excentrique dans le sens de trop indépendant, maverick, là, un peu trop cowboy, pas vouloir faire à sa façon. Sinon, c'est une excentricité dans le sens de...
Oui, quelqu'un de vraiment, qui a l'air arrogant quand tu lis l'article, là, mais qui, grâce à ce professeur-là, a quand même pu gravir les échelons et finalement devenir professeur agrégé à l'Université de Toronto. Mais comme exemple de son excentricité, de son caractère peut-être aussi un peu difficile, il cite le fait qu'il a refusé à plusieurs reprises de se soumettre à l'évaluation de ses projets de recherche par un comité d'éthique, s'estimant parfaitement capable de juger lui-même de l'éthique de ses recherches. Puis la façon que c'est formulé, en tout cas, on a l'impression que Bernard Schiff trouve ça vraiment scandaleux. Ça m'a frappé. Parce que je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que normalement, un psychologue obéit à un code d'éthique, puis ça devrait comme être suffisant, là, de mon humble avis. Puis que c'est vrai que dans les universités, on a tendance à comme engraisser beaucoup la bureaucratie puis la réunionnite. C'est un secret de polichinelle, là. Puis que dans ces comités-là, ils jouent beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs de vendette, tu sais, en tout cas, vendette personnelle, des rapports de pouvoir entre les profs et les inimitiés qui ont, tu sais.
C'est pas exclu que Jordan Peterson, je le sais pas, mais c'est pas exclu qu'il disait « j'ai ma pratique privée où je suis mes patients comme je pense qu'il se doit, étant donné ma formation et mon éthique et mon code et tout ça. Pourquoi, quand je fais de la recherche, il y a des multiples couches de choses qui font traîner le début? Tu sais, ça se peut que c'était quelque chose de cet ordre-là versus, tu sais, j'ai pas à écouter personne, je fais ce que je veux.
Et c'est ça.
Je bouscule tout.
Et c'est ça. Mais Bernard Schiff l'a pas entendu non, comme pas ça. Entendu. Lui a entendu... en parle comme si c'était quelque chose de vraiment particulier, puis potentiellement louche, ouais. Dérangeant louche, ouais. entre autres singularité de Jordan Peterson, c'était de refuser de se soumettre à certaines exigences académiques, protocolaires, ouais. Contrairement à ses pairs ou ce à quoi tous ses pairs acceptaient de se soumettre par ailleurs.
Ou, et puis en plus, est-ce qu'il a refusé ou il n'a pas pu s'empêcher de pointer l'absurdité de l'affaire? Ça aussi, il faut voir. Parce c'est ça. Fait son genre aussi,
oui.
De ne pas pouvoir s'empêcher de pointer la redondance bureaucratique versus refuser...
C'est ça. Mais quand on voit comment il est mal interprété en général ou comment ses détracteurs ne s'attardent pas à comprendre ce qu'il dit, ils vont rapidement aux conclusions.
Ouais.
Donc, la deuxième chose qui lui est reprochée dans cet article-là par ce professeur-là, c'est tout autour de la loi C-16 et de ses interventions sur YouTube.
Ouais.
Le prof dit, Bernard Schiff dit, là, quand il a commencé à parler de ça, je me suis sentie trahie. Il faut dire qu'il a mis la table pour dire, malgré ses excentricités, on était des amis proches. Je l'ai hébergé chez moi, nos familles se connaissaient, j'ai connu ses enfants. C'est quelqu'un que j'affectionnais et que je respectais et que je défendais. Mais quand il a commencé à se mêler du débat autour de la loi C-16,
ouais.
Je me suis sentie trahie. J'ai une fille transgenre, elle est magnifique, elle est belle. Je n'ai pas compris du tout pourquoi il a voulu s'en prendre
ouais.
à ces personnes.
Ouais.
Je l'ai vécu comme une trahison.
Ouais. Et c'est comme ça que par la suite, en passant, Jordan Peterson va dire « Ça semble être le nœud de l'affaire, il a mal compris mon propos. » Et là, lui se défend à Bernard Schiff en disant « Ce n'est pas le nœud de l'affaire, c'est un exemple. Il ne faut pas que ça soit réduit à cet élément-là personnel. »
Qu'est-ce qu'il disait? Il en a reparlé, donc, Jordan Peterson?
Oui, Jordan Peterson, il a écrit un email en disant ben, « Sa fille est transgenre, ça a peut-être créé chez lui, il n'était pas content. » Mais il a comme réduit l'article à cet aspect-là.
OK.
Ce que Ben Archie disait que c'était...
C'était pas ça?
Inopinément réducteur, c'est qu'il y avait plus que ça.
OK. Quoi, par exemple?
Ben, je sais pas, il dit pas... Malgré que, tu vois, moi, je trouve que... Pas sa fille comme telle, là, mais... Ce qu'il dit par rapport à l'objection de Jordan Peterson au Bill C-16, je trouve que c'est son argument le plus fort dans l'article.
Mm-hmm.
Et c'est celui à laquelle moi je suis plus sensible, l'idée de dire, comme il l'a dit, Bernard Schiff, Jordan Peterson a tendance à prendre la position d'un martyr. Fait que dans ce cas-là, il s'objecte à quelque chose, mais rapidement, et presque avant de s'y objecter, il commence déjà à soulever l'idée qui pourrait être censuré pour son objection à venir et qu'il faut le supporter, qui pourrait perdre son emploi. Et donc, il en fait une cause parallèlement ou avant son objection. Et là, Bernard Schiff, il dit, tu sais, il n'y avait pas de raison qu'il perde sa job. C'est pas vrai. T'sais, il a exagéré le dramatique de l'affaire. Il s'est fait un martyr. Puis après ça, il ne peut pas se surprendre, c'est son point de vue, là, que les gens en fassent un cas, parce qu'il a posé ça comme étant lui qui se tenait debout et qui prenait des risques, etc., etc.
Fait que ça veut dire que à cause de ce qu'il a dit, il a appelé la réaction agressive et les 200 professeurs d'université qui ont signé une lettre pour son renvoi, une pétition demandant son renvoi, il a attiré... C'est-à-dire pas à cause tant de son propos, autant qu'à cause de sa position de martyr avant même d'avoir énoncé des propos controversés. Il a attiré la violence en annonçant qu'on allait être violent avec lui. quelque chose comme ça qu'il voit ça.
Ouais, ou tu sais, de dire que c'est quelqu'un qui est particulièrement sensible au fait que les gens pourraient s'opposer à lui et qui est à l'affût de ça et qui popularise cet aspect-là et qui... Fait qu'il il crée un peu le phénomène, Jordan Peterson, selon Bernard Schiff, là, il pourrait un peu créer le phénomène dont il pâtit par la suite ou dont il se dit être victime. Et notamment, en disant très rapidement, il faudrait que je vois la chronologie, mais c'est possible que très rapidement, il dise, Jordan Peterson, tu sais, je m'oppose à quelque chose et je prends un risque et je pourrais perdre mon emploi. Et tu sais, qu'il en mette plus que passé dans ce sens-là.
Mm-hmm.
Bon, c'est pas un reproche énorme à faire à quelqu'un, là.
À moins que tu questionnes ses intentions réelles derrière ça, à moins que tu doutes de sa sincérité et que tu présumes ou que tu pas nécessairement que tu présumes, mais que parce que tu doutes de sa sincérité, tu sois tenté d'imputer des ouais. intentions qui sont cachées.
Ouais. Ben oui. C'est ça. Et là, on touche à un autre aspect, en fait, de la lettre. En filigrane, c'est l'idée qu'il ne devrait pas, à la limite, être populaire comme ça. Tu sais, c'est quasiment comme si être populaire, que ton message ait un écho, que tu sois beaucoup lu, entendu, vu, en soi, c'est une preuve... Ben,
qu'il y a quelque chose de louche.
Oui, c'est des preuves que, nécessairement, si ton discours a tant de portée, c'est que c'est réducteur, c'est que tu fais des images... grossière de ce qui se passe, c'est que tu exagères.
T'es populiste. T'es un populiste.
Oui, et la preuve, c'est que t'es populaire. Tu sais, il y a comme c'est un ça. Truc.
Oui, c'est ça.
Fait que c'est là, moi, je trouve que là, ouais, c'est comme si un prof d'université, c'est difficile de ne pas le prendre autrement que comme un prof qui dirait, hey, on est plein de profs à tout avoir des idées, puis à noyer le poisson, puis à pas être lu, puis écouté par personne, puis il y a lui qui arrive, puis là, qui devient une star, puis qui fait des conférences oui. partout. Puis qui fait de l'argent comme de l'eau,
oui.
c'est louche.
Oui.
Puis on l'haït.
Oui,
parce que ben, pourquoi pas moi?
Tu sais, le physicien, comment il s'appelle? Christopher Hawkins?
Ouais.
C'est Christopher Hawkins? Ouais. A fait réagir ses collègues universitaires de la même façon. J'ai vu un documentaire. Oui. En fait, l'histoire, le documentaire, c'est... Je vais le mettre en lien, parce que c'est drôle, il me semble, ça ressemble beaucoup, là. Puis je me demande si Lacan, c'est pas aussi un peu ça, là. Le documentaire raconte comment c'était son intention, il sortait avec une fille, puis il commençait à perdre ses capacités. Il était très soutenu par sa conjointe, et ensemble, ils ont comme rêvé l'idée de le rendre populaire, rendre l'astrophysique populaire.
Ah ouais?
Oui, puis d'écrire un livre... Ils l'ont imaginé, ils l'ont formulé ensemble, d'écrire un livre qui serait vendu, qui serait un best-seller, qui serait vendu dans les aéroports, dans les dépanneurs. Tu sais, ça a marché.
Ouais.
Puis là, t'as de ses collègues qui sont comme dans le documentaire à dire, tu sais, je veux dire, il est intelligent, là, mais comme dans la moyenne de ceux qui sont intelligents dans notre département, là, parmi les astrophysiciens, pas plus brillant que les autres. Fait qu'on,
pourquoi
qu'on,
lui?
Qu'on le présente comme cette espèce de génie. Il n'était pas content. Les collègues n'aimaient pas ça.
C'est drôle. Je peux faire un aparté. Pas trop qu'on se perde, là, mais c'est drôle que tu parles de Stephen Hawking parce que c'est pas quelqu'un à qui je parle souvent, mais j'écoutais un...
Oui, c'est ça, Stephen Hawking.
Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit?
C'est moi qui ai dit Christopher. C'est Stephen Hawking.
Oui, c'est Stephen Hawking. J'écoutais un stand-up comique aux États-Unis qui s'appelle, je crois que c'est Bill Burr, puis qui fait un peu ses chou-gras, là, tu sais, son chic, c'est de transgresser, en fait, tu sais, puis de dire des choses qu'on peut pas dire. Tu sais, c'est un peu ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de levée du refoulement parce qu'il va à des... Tu sais, il y a des vérités acceptées que tout le monde répète comme étant convenues. Lui, il prend ça à l'envers... Puis il est quand en colère. Fait que bref, à un moment donné, il y a tout un truc où il dit que lui, il haït Stephen Hawking, tu sais, parce qu'il est négatif, puis il est pessimiste.
Ouch!
Puis que là, il y a des mouvements violents contre... En tout cas, tu sais, toutes des choses qu'on pense jamais.
Uh-huh.
Là, tu vois les gens qui rient, mais il y a le malaise rire de jaune. Rire.
Ouais, oui, rire douloureux.
Fait que bref. C'est un autre genre de translation.
Mais c'est oui. Le même propos, en fait. C'est juste que les profs d'université qui étaient interviewés dans ce documentaire-là, ils ne pouvaient pas aller aussi loin que ça, parce que c'est comme quand même, franchement...
Mais aux États-Unis, il y a des gens qui font du stand-up comique qui ont encore une espèce d'immunité et qui peuvent se permettre de dire des trucs comme ça et que ça passe. Mais puis tu vois, en fait, c'est le même sujet que ce qu'on parle, parce qu'à un moment donné, ils deviennent censurés. Pas tant pour la blague qu'ils ont dit, parce que bon, tu fais une blague, est bonne, est pas bonne, elle transgresse trop, tu brises un tabou que tu devais pas briser. Tu sais, ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont censurés, c'est qu'il y a des gens, c'est toujours la même chose, il y a des gens sensibles, vulnérables, qui reprennent la blague, qui enlèvent le drôle. Et qui se sentent blessés. Ben, ou qui reprennent, mais qui l'exagèrent, qui écrivent au gars qui était la cible de la blague, puis qui dit, c'est vrai, moi aussi, je suis comme le comique oui. Le dit, je t'haïs aussi. T'sais.
Oui, c'est ça, oui.
Pauvre gars, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le lendemain matin, il reçoit 50 tweets de gens qui disent, vrai. Moi aussi, je t'haïs. C'est là qu'on peut dire, ah ben non, ce genre de blague-là, haineuse, encourage la haine.
C'est ça, on ne peut pas faire ce genre de blague-là parce que 50 personnes vont perdre la tête ou vont être épais.
Et au risque de quand même toujours tout simplifier de mon côté aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies. Mais c'est beaucoup un phénomène de Twitter aussi parce que c'est instantanément, le lendemain, tu vois les messages haineux envers oui. La personne ciblée. Oui. Fait que là, c'est vraiment, il y a une preuve tangible de dire « ouais, c'est vrai que ça crée oui. Ce phénomène-là qu'on n'avait pas avant. »
Oui, puis aussi, en fait, disons, on dit 50 messages pour l'image, mais... C'est que ces 50 messages-là te font perdre complètement la perspective de... Parce que ces 50, ça, c'est beaucoup, puis personne ne veut être exposé à ça. C'est beaucoup. Mais comme c'est beaucoup, sur le coup, ça te fait perdre la perspective de l'ensemble. Juste revenir sur un événement qui revient d'actualité avec les élections municipales à Montréal qui s'en viennent et le retour... de l'ancien maire Coderre et la bataille électorale qui va commencer. Je suis allée voter sur un dossier aux dernières élections municipales. C'était le dossier des chiens.
Oui.
Parce que ce qui est arrivé à Montréal, pas longtemps avant les dernières élections municipales, c'est que une femme est morte d'une mort tragique. Attaqué par le chien de son voisin. Ça donne que le chien de son voisin s'appelait Satan et que le voisin en question avait un dossier criminel pour des crimes violents. Fait qu'il y a un contexte autour de ça. Mais la conséquence, c'est que tous les chiens de Montréal ont été visés par toute une série de nouvelles réglementations qui donnait l'impression à ceux qui ne connaissent pas les chiens que les chiens un peu gros sont tous potentiellement dangereux et qu'il faut prendre des mesures, des muselières, ouais. La chaîne pas plus longue que ceci, des mesures agressives contre tous les chiens et qu'il y avait des races de chiens qui étaient exclues. Tu sais, c'était terrible pour des propriétaires de chiens à ce moment-là. C'était terrible, c'était effrayant. Puis pour ceux qui n'étaient pas propriétaires de chiens, mais qui avaient déjà peur des chiens, c'était aussi effrayant. Mais tout ça, parce qu'un type... C'est-à-dire, tu sais, comme on a généralisé une situation en faisant fi du vrai problème... Il y en avait plusieurs, la clôture était comme pas
ouais.
faite, le gars il était violent, comment ça un gars violent, une histoire de violence, comment ça un gars qui a une histoire de violence se retrouve avec un pitbull dont il s'occupe même pas. Tu sais, il y a tout ça, mais on a généralisé la patente à tous les chiens. Le lien que je fais, c'est ça, les 50 courriels... De gens qui sont dans le fond de leur cave ou qui ont perdu le sens de la courtoisie parce qu'ils ont l'impression que tout ça, c'est de la fiction, en ouais. fait, qu'ils participent à un jeu vidéo, dans le fond, que c'est ouais. pas des vrais gens, puis qu'on les voit pas vraiment, eux. qui sont 50 à envoyer le relais d'une blague niaiseuse et méchante à quelqu'un qui est réel, mais dont ils ne voient plus l'humanité à travers les réseaux sociaux, parce que c'est tout, tu sais.
Oui.
Ces 50-là, c'est à cause de ces 50-là, l'ensemble des autres se trouve menacé, entre guillemets, de censure. Tu vois-tu, c'est comme on prend l'exemple pour en déduire la règle.
Oui.
Ou réclamer des nouvelles règles.
Ouais. Mais c'est dur de trouver et d'établir à partir de quel moment, légitimement, on peut dire, ben effectivement, ben c'est dur. C'est dur, puis c'est pas dur, mais oui, c'est pas si facile de pouvoir établir légitimement à partir de quel moment la parole de quelqu'un, une mauvaise blague, dans le cas de Bill Burr, ou ben oui, une mauvaise blague ou une blague méchante, en fait, c'est pas nécessairement mauvaise, dans le sens que pour lui, il peut dire, ben, le public réagit, et c'est mon but, et on achète mes billets, puis je fais rire. Puis... Mais bon, à partir de quel moment on peut dire, ben ça, c'est pas acceptable, parce que, vraisemblablement, trop de gens, après ça, oublient le deuxième degré, oublient le troisième degré, le piano plié de la lettre, puis font juste être méchants.
Oui.
Là, c'est quoi le nombre? C'est-tu 50? C'est-tu 100? C'est-tu 300?
Oui.
Ça vient physique, tu sais, si tout le monde va défoncer quelque chose le lendemain, là, on se dit, bon, ben là, c'est vraiment un appel à la violence ou à l'agressivité ou à la destruction de matériel. On peut dire, effectivement, ça n'a pas de sens. Mais quand même, c'est pas facile parce que là, il faut que tu retournes à la personne qui l'a dit en disant, hey, tu t'en es peut-être pas rendu compte en 10 ans, mais tes paroles ont une portée telle qu'il y a une gang de monde qui prend ça, qui en extrait une partie, puis qui font des gestes qui sont pas acceptables, et à cause d'eux, toi, t'es censuré. Tu sais, c'est quand même, il y a beaucoup de...
Oui, puis il y a aussi, tu sais, on peut être sensible à l'humour, puis vouloir essayer de censurer l'humour pour éviter les conséquences d'une mauvaise interprétation ou d'excès qui viennent avec de l'humour cassant ou méchant, là. Mais il y a aussi toute une catégorie de discours qui sont ouvertement des appels à des formes de violence qui sont absolument correctes par ailleurs. Les appels à la révolution, ce qui finit par des émeutes là, à certains endroits aux États-Unis en ce moment, mais aussi ailleurs, tu sais. C'est pas traité de la même façon. Il y a des élus aux États-Unis et ailleurs... des élus qui sont pas gênés de dire aux gens « il faut prendre la rue », puis etc.
Tout dépend de la cause, c'est sûr.
Mais personne... Exactement, parce que t'as pas le même truc. Ben là, si l'élu a dit « il faut prendre la rue », certains pourraient l'interpréter comme une invitation à virer des autos de bord, chasser des gens... frapper des gens, abat les capitalistes, tu sais.
Oui, c'est sûr que Bill Burr, demain matin, fait des blagues contre les grandes compagnies pétrolières, puis il y a certaines personnes qui se révoltent, puis qui décident de faire... de plus utiliser du pétrole ou d'en vouloir...
Ou de faire brûler une station-service.
Ça n'aura pas le même impact. Ben, non. Là, dépendamment du geste, là, ça peut ne pas avoir le même impact. Mais oui, c'est sûr que la cause va avoir un impact. Mais cela dit, je voulais revenir aussi parce que tu as parlé de Lacan, puis tu vois, pour moi, Lacan, comme de la même façon que tu ne voulais pas comparer Jordan Peterson à Trump, je ne veux pas comparer Jordan Peterson à Lacan, mais ils ont cette chose-là de similaire. Je crois que même s'ils s'en défendent respectivement, puis qu'ils vont dire qu'il y avait une cause plus grande que leur propre popularité, que ce n'était pas important... En même temps, je pense qu'il y avait chacun... Tu sais, Lacan avait ce désir-là. Je ne sais pas s'il avait le désir d'être populaire, mais il y avait une espèce de grandiosité dans la façon dont il décrivait ce qui lui arrivait.
Oui.
Alors, quand il a été
rejeté... Excommunié.
Ben, c'est là que je voulais en venir. Quand il a fait des trucs un peu louches, on peut se le dire maintenant, hein, puis il a été rejeté d'une gang de psychanalystes, pour le dire crûment et brièvement, il n'a pas dit... « Ouais, bon, j'ai peut-être des règles que je n'ai pas respectées, puis finalement, ils ne veulent plus de moi, je vais partir ma propre école à côté, puis qu'ils m'aiment me suivre, puis c'est terminé, je demeure modeste. » Tu sais, ça a été quand même assez grandiloquent, j'ai été excommunié, mais c'est un peu ça Jordan Peterson aussi, tu sais, « Je vais être censuré, je vais être un martyr, Envoyez-moi de l'argent, parce que si je perds mon statut de professeur d'université, je vais être à la rue. Tu sais, il y a quelque chose, des fois...
De... Il demandait de l'argent, pour vrai, au début?
Ben, c'est le Bernard Chip, il fait allusion à ça, que rapidement, il va dire, tu sais, ça se peut que j'aie besoin de fonds pour combler le fait que je pourrais perdre ma job à cause des propos que je tiens, tu sais. Il y a ça en filigrane qui, à un moment donné, fait en sorte... Ça, je crois que c'est juste que certaines personnalités vont attirer des gens qui vont devenir des followers, là, parce que j'ai pas un autre terme.
Des adeptes.
Des adeptes, puis qui vont trouver que leur héros ou que la personne qu'ils ont en haute estime a été injustement traitée,
oui,
a été
un martyr. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme ça. Il y a des religions qui ont été fondées comme ça.
Tu sais, il y avait ça dans les Lacaniens, il y a ça dans beaucoup... Ça peut être un moteur qui fait en sorte que quelqu'un a des adeptes.
Oui.
Mais là, ça l'a dit. Qu'est-ce que ça fait?
Est-ce qu'obligatoirement, ça rend quelqu'un dangereux?
Oui, c'est ça que j'allais dire.
Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il est en train de fonder une église? Il est en train de fonder une religion? Ou c'est un culte? Il est en train de créer un culte? Est-ce que c'est son propos? Est-ce que c'est sa crainte?
Oui. Mais moi, je trouve que donc l'aspect... que Jordan Peterson peut avoir un côté martyr, je peux voir. Après ça, un autre argument qui est non, c'est le fait que parfois il prend des semi-vérités qui élèvent en statut de vérité, ou tout un ronron autour du fait que son discours est simpliste ou percutant parce qu'un peu simpliste ou qu'il fait image. Mais tu sais, après ça, c'est parce que là, est-ce que si quelqu'un fait une conférence d'une heure ou un TED Talk de 20 minutes, c'est sûr que
tu peux tout dire.
Ben, tu peux toujours lui reprocher d'emblée, par principe,
que c'est trop résumé.
D'avoir résumé.
T'as trop résumé.
J'aurais pu faire quelque chose de long et ardu que personne n'aurait lu.
Mais c'est ça aussi le truc. Je suis pas d'accord, moi, que c'est trop simpliste. Et,
en plus, c'est que ce n'est pas tant que ça. C'est Jordan Peterson, on peut vraiment pas dire que c'est monsieur juste. Ben, dépendamment des plateformes, là, parfois sur Twitter, il est plus limpide, mais il y a des plateformes qui te menottent un peu en termes d'élaboration, mais il fait beaucoup de longs podcasts.
Oui, des échanges qui durent 3 heures avec d'autres personnes, oui. Et comme il est ouvert à discuter, tu sais, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'idée que c'est simpliste. Par contre, il y a quelque chose avec les universités, les universitaires... qui évoluent, eux, dans un monde clos à eux, qui a ses règles, qui a ses rituels, ouais. Qui a ses obligations, qui a ses interdits, ouais. Et qui, on le dit très souvent, même tellement souvent depuis quelque temps que je trouve que ça en devient louche, qui sont engagés dans des institutions de haut savoir. Tu sais, il y a comme quelque chose
de comme noble.
De noble, une noblesse à la connaissance, à la recherche académique, hein, qui se marie pas bien avec le mainstream, les réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire, c'est difficile,
ouais.
Quand t'as pris l'habitude de devoir expliciter ta recherche et d'être prudent dans tes analyses... C'est un style, hein? Une façon de penser, ça ne se marie pas tellement bien avec le rapidement, tu sais. C'est rare qu'un prof d'université devienne vedette,
ouais.
Pour le dire simple.
Ouais.
Quand le prof d'université devient une vedette, on peut penser que ça dérange les autres profs d'université parce qu'il sort...
Oui, il sort
du moule.
Mais tu sais, ça serait un peu comme... c'est une analogie, mais tu sais, une gang, un groupe... de musiciens dans un orchestre symphonique anonyme qui sont chacun dans leur champ respectif des experts d'un instrument. Puis là, il y en a un qui sort, puis qui fait une toune boum-boum-pop, puis du jour au lendemain, il devient la vedette, puis le grand musicien. T'sais.
Ou pire que ça, il sort de l'orchestre symphonique et il joue un morceau qu'il a déjà joué à l'orchestre symphonique. Il explique aux gens... comment on réussit la magie de faire ce morceau-là,
ouais.
Quand on est dans l'orchestre symphonique, avec un langage accessible qui donne le goût à d'autres gens de le faire et enlève la spécificité, tout le mystère l'aura.
Oui. Puis en plus, il fait 10 000 piastres par mois sur Patreon.
En plus!
Avec des gens qui
et il critique l'orchestre symphonique.
Oui, d'être corrompu.
Qui n'est pas capable de se renouveler.
Oui, c'est ça. Il dit comme ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs arguments que Bernard Shift apporte que je trouve sont pas très convaincants. Particulièrement tout ce qui est de l'ordre de l'anecdote, de choses qui auraient glissé, que Jordan Peterson aurait dit ou glissé dans des bouts de phrases dans des soupers il y a plusieurs années. Là.
Oui, qui après coup sont révélateurs du fond de sa pensée et de pourquoi il est inquiétant.
Ou de sa personnalité. Fait que, tu sais, il y a l'idée que ça serait un peu quelque chose de l'ordre d'un mégalomane ou quelqu'un qui veut être un preacher ou qui veut être populaire. Puis là, il retrouve les fois où il avait fait allusion au fait qu'il aimerait ça avoir cette notoriété-là.
Mm-hmm.
Tu sais, si on se met à condamner tous les gens qui, dans des soupers
avec amis, quelque chose.
Ont eu l'idée d'avoir une certaine notoriété, là,
oui.
Puis qu'on décide de les mettre ensemble, là,
ouais.
Ça va faire du monde. Là, je veux dire, ça pour moi, c'est vraiment. Puis surtout, c'est pas une longue démonstration d'un truc pathologique. Là. C'est en termes de monnaie à la fin du souper, il dit ça serait intéressant d'avoir telle audience. C'est un truc assez banal, là, quand même.
Mm.
C'est pas dangereux. Là.
Mais il y a un truc qui est intéressant dans l'ensemble du portrait, là. C'est que, dans le fond, t'as un establishment qui est le cercle universitaire et t'as quelqu'un qui était dedans, qui était dans le club,
ouais.
Et qui en est sorti et qui le dénonce parce que c'est beaucoup de son propos de départ, puis en 2018, c'était beaucoup de ça qu'il parlait sur sa chaîne YouTube.
Ouais, ouais.
Les postmodernes, la corruption de l'université, les recherches qui sont revues en pairs, mais des pairs qui sont dans une clique, qui sont citées par personne.
Ouais, c'est vrai, c'est raison.
Il y avait une charge anti-universitaire. Il y a ça en commun avec Donald Trump. Donald Trump, peu importe, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, là, parce que c'est un personnage dont tout le monde parle tout le temps, qui suscite ça beaucoup. C'est quelqu'un qui était un démocrate, qui était un donateur démocrate, qui était de New York, qui était dans le coup.
Oui.
Et qui était fréquenté par des gens qui étaient dans le coup. Et pop, qui en est sorti pour rejoindre une autre population en les dénonçant.
Oui.
Les fake news, le fake
swamp.
Ce qu'ils se disent aussi entre eux, ce qu'on peut se dire quand on est juste quelqu'un de moindrement attentif à l'actualité, tu sais, mainstream, on peut se dire que bon, ben, les histoires ne sont pas tout à fait racontées comme conformément aux faits, quand on connaît les faits. C'est un peu tourné à comment ils font leur choix de nouvelles. Il y a comme un narratif, comme on dit.
Mm-hmm.
Tu sais, on peut se le dire, mais on se le dit entre nous quand on est dans le club, entre guillemets, petit ou élargi. La même chose avec Lacan. Lacan, c'est... La même chose avec Pol Pot, en passant, parce qu'il y a ça aussi.
Mais la même chose avec Lacan, c'est vrai. Il est dans la clique de psychanalystes. Il s'en va ou il se fait rejeter ou il se fait excommunier selon les points de vue. Mais après ça, il crée son école de psychanalyse parallèle qui critique l'establishment.
Mais c'est qu'il les critiquait. C'est pour ça qu'il s'est fait excommunier, entre guillemets.
Oui, oui, oui.
C'est qu'il est de nous, mais il ne respecte pas les mêmes tabous que nous.
C'est ça. Et il brise les codes.
Oui, il brise les codes et il dit tout haut ce qu'on peut penser entre nous. Oui. Mais qu'on ne dira pas à l'extérieur de notre club.
Oui, c'est ça.
Il y a comme quelque chose d'impardonnable à sortir de
notre club et à dire « oui, tout à fait ». Non, puis c'est bon, tu nous amènes là-dessus parce que j'avais oublié, mais il y a tout ce fantasme-là au début dans l'aventure de Jordan Peterson avec les réseaux sociaux de créer une université parallèle.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Globalement, de créer un réseau d'éducation ou de savoir parallèle. Puis même, je pense qu'il va jusqu'à dire à quelques reprises à des parents, si vous avez des enfants qui sont sur le point d'aller à l'université, empêchez-les ou redirigez-les ailleurs.
Oui,
ou...
envoyez-les pas là.
Envoyez-les pas là.
Oui.
Oui, oui. Fait que c'est vrai que dans ce sens-là, La critique de celui qui est à l'intérieur, qui est en fin de carrière de l'université, ça prend une différente couleur, si on veut. Là.
C'est critiquer l'establishment. Quand tu es à l'extérieur, tu peux être facilement invalidé.
Ouais.
Ta critique, tu sais, elle peut être attribuable à 12 000 choses. Ouais. Tu n'es pas au courant, tu ne le sais pas, tu es qui, etc. Quand tu es de l'intérieur, et non seulement que tu es à l'intérieur, mais que tu as gravi les échelons et que tu es au top,
ouais.
À l'intérieur, c'est impardonnable.
Oui, il y a eu, Jordan Peterson, il est tombé malade un moment donné, puis ça a tout brisé son élan, mais parce qu'il était malade pendant longtemps, puis là, il revient, mais à petits pas. Mais pendant un bout de temps, il y avait un riche milliardaire des États-Unis qui avait voulu, qui avait en fait créé une institution, une espèce d'MBA express, là, dans laquelle Jordan Peterson était impliqué.
Mm-hmm.
C'était donc une alternative, en fait, à des institutions universitaires classiques. Là.
Puis ça a foiré, par exemple.
Ouais, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais...
Mais en fait, c'est comme un entrepreneur à l'intérieur d'une université. C'est un entrepreneur dans une position institutionnelle. C'est comme un paradoxe. C'est comme difficilement conciliable. Un entrepreneur au sens où il ne manque pas d'idées. Par définition, les choses universitaires prennent leur temps. Elles sont structurées pour ça. On prend un temps long pour écrire un article, pour écrire une demande de subvention, pour attendre le retour de la demande de subvention, pour mettre en place ses recherches. Tu sais, c'est...
Ouais.
Tu sais, tu montes un cours, ça dure une session. La session, il faut que tu sois évalué, mais le cours que tu as monté, c'est dans le contexte d'une formation qui prend son temps long. Tu sais, l'entrepreneur va vite.
Oui, oui.
Essaye des trucs, ça foire, essaye autre chose.
Ben oui, écoute, la preuve, c'est qu'il crée en pas longtemps une université.
Oui.
C'est quand même.
Oui. Puis ça foire, puis c'est pas grave, il passe à son prochain projet.
Oui, c'est ça. Oui,
c'est ça. Fait qu'on peut dire, il a essayé de monter une université avec un entrepreneur chelou, louche, un gars de l'extérieur, un étranger.
Oui, un riche Texan.
Un riche Texan, of all places.
Oui.
Ça a foiré, donc il y a quelque chose de louche là-dedans où on peut se dire bon, ben il a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, il a essayé autre chose, ça a marché mieux.
Ouais, ouais.
Quand on voit ça du point de vue de l'entrepreneur,
exact.
T'sais? Mais quand on voit ça du point de vue de l'universitaire,
tout à fait.
Je trouve ça intéressant comme truc.
Mais tu vois, j'avais oublié parce que cet aspect-là, parce que c'est vrai que ça donne un relief différent à l'article de Bernard Schiff, mais puis l'autre point de vue, puis pour moi, c'est là que même à la limite, une partie de la crédibilité de l'article tombe à plat. C'est parce que maintenant, il commence à broder autour du fait que potentiellement Jordan Peterson pourrait considérer faire un saut en politique, notamment pour le Parti conservateur. C'est donc pour moi... On est quand même au Canada, là. Je sais que tu es plus social-démocrate que moi, là, mais quand même, là. T'sais, que quelqu'un se dise « je pourrais être chef du Parti conservateur au fédéral et donc me poser dans l'échiquier plus à droite », je conçois, mais que là on dise « et donc voilà là où réside le danger », là c'est vraiment un saut logique, là, je veux dire, parce que là, même, ça enlève toute crédibilité à l'affaire, parce que si le danger qu'il le présente, c'est parce qu'il pourrait être à la fois populaire et à droite, donc prendre le pouvoir pour le Parti conservateur au fédéral, c'est sûr que c'est un danger pour quelqu'un qui a des opinions très différentes puis qui veut empêcher ça, mais là, ça donne un autre relief à la dangerosité de l'affaire, tu sais. Là, c'est vraiment un politicien ou quelqu'un qui est partisan, qui dit « ben, DeSantis en Floride, il est populaire », il plaît aux gens, il a un discours punchy, il est à l'aise devant les caméras, ça se peut qu'il remplace Trump et qu'il devienne chef du Parti républicain. C'est un danger pour nous démocrates, parce qu'il pourrait... Tu comprends? C'est un danger dans une logique partisane.
Oui.
Mais là, c'est complètement différent. Mais au départ, son article n'était pas formulé comme ça. T'sais, s'il avait dit en termes politiques, il est à droite, il pourrait... créer un courant à droite au Canada. Moi, je suis contre, je suis à gauche, c'est un danger. Alors, je comprends tout ça, tu sais, c'est parfait. Absolument, c'est un vrai danger. Mm-hmm. Tout à fait, mais c'est une ordre des choses différentes.
C'est, ça met vraiment en évidence, parce que l'article est... à moins que je me trompe, c'est peut-être parce que, tu sais, d'en avoir écouté des vidéos de Jordan Peterson, puis de m'être intéressée beaucoup à lui, puis d'avoir trouvé, malgré ses défauts puis ses imperfections, qu'il pouvait faire du bien à quelqu'un comme moi, puis visiblement à des tonnes d'autres personnes à travers le monde. C'est-à-dire que c'est pas malin ce qu'il propose au monde, c'est pas destructeur au contraire, et c'est intéressant avec tous ses défauts.
Ouais.
Qu'en 2018, au début de sa popularité, qui était la cible de tellement d'attaques, des establishments, pour le dire comme ça, là, de Wendy Messley, de toute la télé mainstream à travers le monde, qui, d'une manière qui a révélé à beaucoup de gens comment ça fonctionne, l'information, les émissions d'affaires publiques, comment c'est orienté. C'est à ce moment-là que cet article-là a été écrit. Jordan Peterson est dangereux. Le discours qui était autour de lui, c'était aussi « Il est aimé par l'alt-right. »
Ouais. Ouais.
C'est l'antéchrist, dans le fond.
Mais pas par la droite, hein, par la far-right,
oui.
L'alt-right,
oui.
La droite extrême. Là,
oui,
donc
le sous-entendu,
là.
c'est des néo-nazis, ce qui n'était absolument pas le cas. Ça pouvait rentrer dans cette logique-là, puis dans cette excitation qu'il y avait mondialement autour de la montée de cet homme-là en popularité. Là, on est 3 ans plus tard, puis c'est dire aussi comment le temps... comment il s'en passe des choses en peu de temps, là, comment le monde est en constante mutation. Tu sais, ça fait juste 3 ans, mais ça date.
Mm-hmm.
Ça vieillit mal, je trouve. Parce que ce qu'il a fait depuis Peterson, c'est d'écrire un livre qui est hyper populaire, de faire une tournée mondiale autour de son livre, de parler de religion, de parler de mythologie, de tu sais, puis le livre, c'est comment redonner du sens à votre vie, en fait.
Oui.
Hein?
Oui.
C'est un livre qui vise à aider les gens. Les attaques qu'on lui faisait étaient injustifiées. C'est avéré, là.
Bien, à moins que... Vous dites, je suis d'accord avec toi parce que... Je suis en train de trouver mon objection avant de dire ce que j'allais dire, mais... Oui, effectivement, tu sais, ces livres, en fait... L'autre fois, j'entendais dire, le premier, c'était de dire, essayez de mettre de la structure dans votre vie. Puis le deuxième, c'est autour de... accepter le chaos dans votre vie et essayer de puiser quelque chose dans la part d'ombre qui vous appartient.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, fait que c'est comme un espèce de truc jungien, de yin et yang, puis de structure et de chaos, puis de jouer avec ça pour avoir une meilleure vie. Tu sais, fait que c'est assez... Il n'y a rien nécessairement de si...
scandaleux.
Fondamentalement scandaleux. Mais là encore, tout dépend encore là de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ce qu'il dit que certaines personnes qu'on catégorise marginales ou à droite ou à l'extrême droite vont reprendre, amplifier, caricaturer, s'approprier et voilà. Et donc, et rester là-dessus. Fait que donc, tu sais, s'il dit dans son premier livre à des gens, tenez-vous droit, essayez d'être un expert dans quelque chose, de trouver un sens à votre vie, de vous réapproprier une expertise, puis espèce de masculin affirmé, blablabla, puis qu'il y a du monde qui prenne ça, puis ben c'est ça, ils caricaturent, ils l'amplifient, puis ils deviennent du masculin toxique, puis ils encouragent ça. Puis là, on trouve des tweets de personnes qui ont l'air des coucous, qui ont dit « j'aime Jordan Peterson, puis je suis pour hôtel, patente, tu sais. » Fait qu'il y a un écart entre son discours puis comment certaines personnes le reçoivent, mais
oui.
Encore, on vient à ce qu'on disait tantôt, tu sais.
Mais c'est qu'aussi, il y a des... Il y a autre chose derrière ça. Ça peut pas être que ça. Parce que pendant que tu parlais, je me disais, mais dans le fond, on pose pas cette question-là à, disons, un chroniqueur qui serait très orienté... vers les mesures, tu sais, soutenir les mesures préventives anti-COVID, par exemple. Ah, les bozos portent pas de masque. Ah, il y en a, là. Il y a des chroniqueurs mainstream, là, qui traitent les gens dans leurs chroniques de cabochons, puis covidiots, etc. On se dit pas, oh mon Dieu, il faudrait pas que quelqu'un qui est pro-masque ou que des personnes pro-masque, pro-protection individuelle s'excitent et se mettent à détester les gens plus nonchalants au point de vouloir se faire justice eux-mêmes. La question, par exemple, dans ce sujet-là, ne se pose pas. Ça fait qu'il y a quelque chose d'autre avec des Peterson, puis des Lacan, puis des puis, tu sais, c'est pas le même propos, mais c'est pas si étranger non plus, là. Il y a quelque chose de supplémentaire qui est impardonnable, puis qui justifie aux yeux de ceux qui nous parlent, ceux qui transmettent le savoir, ceux qui transmettent l'information, ceux qui dirigent le dialogue collectif, quelque chose d'impardonnable qu'on pardonne, qui n'est pas impardonnable pour d'autres, dans d'autres sujets.
Oui, tout à fait. C'est comme si on dirait qu'il y a rapidement quelque chose qui est établi comme étant du côté des bons ou des vertueux, puis dans cette lignée-là, tu peux exagérer, puis si quelqu'un exagère ton propos puis en rajoute, ben au moins c'est dans le bon sens, fait que c'est pas grave.
Ben, sauf que si le gars qui est comme pro-masque, pro-propreté, ou la fille ou machin, descend, s'en va chez son voisin, puis, tu sais, le tabasse, parce que le voisin, il le regarde depuis 2 jours sur son balcon, puis il sort sur son balcon pas de masque, puis il voit si ça a de l'allure, tout ça, personne va accuser personne d'avoir provoqué ça par son discours haineux, son discours, tu sais? Donc, c'est pas ça le propos, c'est pas ça l'enjeu. Il y a un autre enjeu. Puis le truc, c'est aussi cette polarisation-là qui donne l'impression des fois d'être un peu délirante. Gauche bien, droite méchant. Puis c'est comme ça.
Oui.
Et on ne semble même plus curieux ou intéressé d'élaborer qu'est-ce que ça veut dire la gauche exactement. C'est d'office, c'est comme moi, je prends pour les Canadiens de Montréal, fait que donc les Bruins, c'est pas bon.
Exact, oui, c'est bien t'sais? Ça. Exactement.
Ça fait que si tu dis, ah, parti conservateur, pas bon, ben donc quoi, obligatoirement, parti libéral, bon?
Oui.
Et là, si tu évoques que, ben peut-être qu'on pourrait comme restructurer le parti conservateur, par exemple, ça veut dire que nécessairement, t'es un néo-nazi.
C'est ça. Oui, puis là, c'est le danger, comme on dit l'autre fois, je crois, c'est d'avoir que chaque camp prenne la version la plus caricaturée de son camp adverse et en rajoute une couche. Fait que là, ça fait comme un dialogue de sourds, ce qui fait que les gens de droite vont dire « Ah, la gauche est violente, la gauche est méchante, la gauche est folle! » Puis les gens de la gauche disent « Ah, la droite, c'est des néo-nazis, des arriérés, tout ça. » Puis là, il n'y a plus personne qui peut s'entendre. Autour de parfois, pourtant, des positions qui sont même pas si différentes.
Mais c'est ça, la gauche ou la droite, dans le fond, c'est comme des macarons. C'est comme... Parce que je ne sais plus, moi, que ça veut dire. Je ne sais pas si quelqu'un peut me l'expliquer, mais ça a l'air qu'on va scotomiser la discussion là-dessus. Ça n'a aucune importance, tu sais.
D'accord, mais est-ce que Jordan Peterson est un gars de droite?
Non. Ben, je ne sais pas.
Ben,
moi, lui, il ne s'identifie pas comme un gars de droite, pas du tout.
Mais tu vois, tantôt, je l'écoutais, puis il disait quelque chose que je n'avais jamais entendu avant. Il disait, peut-être que j'ai tendance à être conservateur, donc à vouloir conserver un certain état des choses quand je pense que c'est le mieux qu'on peut faire avec tous les moyens qu'on a. En fait, non, c'est pas ça qu'il disait. Parce qu'il faisait un truc en disant, peut-être que je suis conservateur au sens de la liberté individuelle. Puis d'être, tu sais, dans l'équation, qui est encore là, qui est rapide, là, mais conservateurs sont plus pro-individu, puis... Les gens à gauche ou libéraux seraient pro-collectivité, puis pensent, tu sais, quelque chose comme ça. Fait que lui, il disait peut-être que je suis porté à être pro-individu de par ma profession de psychologue, qui fait que je rencontre des gens un à un, et que je suis porté à vouloir favoriser leur liberté, leur bien-être, leur émancipation. Fait que bon, écoute, tu sais, Est-ce que à cause de ce biais-là, il est un peu plus du côté conservateur?
Mais ça veut dire que conservateur, ça a évolué parce que c'était pas comme une idée libérale, ça, en fait. Puis depuis quand être libéral, c'est être à gauche plus que centriste, par exemple?
Oh, oui, exact. Oh, mais ça bouge, toutes ces choses-là. Hein. Oui, tout à fait.
Tu sais, c'est un conseil.
Oui, mais je pense que la pire chose qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de le catégoriser rapidement, de l'encapsuler dans une formule, surtout quand cette formule-là n'est pas dans la lignée vertueuse. Ça fait que tu dis de quelqu'un qui est à droite, extrême droite, tu sais, covidio, oui, arrogant, psychopathe.
Oui.
T'en as en ligne quelques-uns comme ça, puis
je veux dire, après placé, ça, c'est terminé.
Tout ce qu'il dit, ça va
c'est terminé. C'est tout. Tu l'as déshumanisé,
surtout
en fait.
Surtout si, en plus, après, tu ne l'écoutes plus et tu ne fais qu'écouter les plus coucous de ce que tu crois être sa gang. Des fois, à tort, hein?
Mm-hmm.
Des fois, il pige du monde, puis il dit ça, c'est probablement un supporter de Peterson. Mais tu sais, en quoi?
C'est ça.
Probable, tu sais.
Oui, mais encore, oui.
C'est un gars qui s'appelle, tu sais, Coucou 17 avec un avatar de chat sur Twitter, tu sais. Fait que, en quoi?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, t'as aussi l'idée, tu disais, il n'y a pas pire affaire que de catégoriser quelqu'un. C'est comme tu le déshumanises. C'est un peu l'idée de ceux qui luttent contre le racisme. En fait, ça, c'est vrai pour toutes les catégories. C'est comme tu catégorises quelqu'un dans une... Tu mets quelqu'un dans une case dont tu l'empêches de sortir, ben tu l'as déshumanisé. Ouais. Donc, il est à droite, c'est terminé. Il n'a plus voix au chapitre, il ne peut plus.
Ouais.
Mais il n'y a pas pire chose que tu peux te faire à toi-même, à mon avis aussi. Tu sais, de dire ah ben non, moi je suis de gauche.
Ouais.
Et donc, par conséquent, je suis obligée de prendre tout. C'est vraiment un package deal. C'est une Costco. Ouais. C'est on le sait.
C'est ça. Je suis obligée d'acheter là.
C'est ça.
Ouais.
À défaut de quoi? Ils vont me dire que je suis à droite, puis je veux tellement pas ça parce que c'est tellement pas bien.
Oui, c'est ça. C'est... Ouais, exact. Tu sais, quand en fait, des fois, il y a des problèmes qui sont complexes.
La plupart.
Ben, explorons quel est le problème, là, ce qui parfois est beaucoup plus difficile qu'on pense. Là,
mm-hmm.
Quelle est vraiment l'ampleur, la portée de complexité d'un problème, essayons de le définir. Après ça, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le régler, puis comment parfois des bonnes intentions vont avoir des conséquences qui n'étaient pas prévues, qui vont faire bouger des plaques tectoniques d'une façon où ça va avoir un impact qu'on n'avait pas prévu. Essayons de le prévoir, essayons de voir ça. T'sais, souvent, il y a des choses beaucoup plus complexes que de juste dire droite-gauche, tu sais. Bonne c'est personne, ça. Mauvaise personne. Non?
Qui te suit? Quel genre de monde te suit? C'est des pas fins, fait que donc t'es pas fin.
Alors, on a fait 3 podcasts sur le phénomène Jordan Peterson.
Sans jamais vraiment directement aborder la substance, ce là. C'est ça. C'est juste le phénomène.
C'est vraiment ça. Comme le patient qui se présente en session, puis il passe des rencontres et des rencontres et des rencontres pendant des mois et des mois, puis qu'il finit par dire le reste, c'est personnel.
C'est ça!
Ça peut être tout.
C'est ça!
Je vous ai bien élaboré sur des choses périphériques à ma vie. Le reste, ça me touche un peu trop personnellement. On va s'arrêter là-dessus. Mais entre autres, je pense que, entre autres, parce que il y a des choses qui élaborent, qui n'est pas si controversé. Si on en revient parfois quand dans ces discussions qu'il y a avec d'autres penseurs sur la vie, les gens, le monde, les problèmes. T'sais, des fois, c'est une personne qui réfléchit.
Puis qui se rattache à des traditions.
Ouais.
Jung, la Bible, les livres mythiques, les archétypes, des trucs qui... Tu sais?
Oui. Mais donc, de la même façon, je refais le parallèle avec Lacan, où Lacan, à un moment donné, a institué un bli des codes dans la psychanalyse, à savoir de dire, ben, ça n'a pas besoin des sessions de 50 minutes.
Oui.
Je vais faire des rencontres rapides, je vais faire des scansions. L'important n'est pas le temps, L'inconscient n'a pas de temps. J'ai pas à m'assujettir à une rencontre à l'heure ou une rencontre aux 50 minutes. Je fais des rencontres rapides, des sessions courtes.
Mm-hmm.
Et ça fait scandale. Et je pense que il y a d'autres choses, mais ça fait partie des éléments qui a fait que, à un moment donné, les gens ont pas voulu suivre, qui ont trouvé que sa pratique n'était pas conforme.
Mm-hmm.
Il y a quelque chose de cet ordre-là chez Jordan Peterson, en fait, de saisir des occasions ou de saisir l'occasion de faire passer son message hors de l'université différemment en utilisant des moyens qui sont assez nouveaux. C'était un des seuls intellectuels, pas un des seuls, mais un des premiers intellectuels à utiliser Patreon, puis mm-hmm. Twitter, mm-hmm. puis YouTube, puis à devoir sa popularité grandir, puis de faire des conférences comme ça, etc. Fait qu'il y a aussi, dans ce point de vue-là, non seulement un bris par rapport potentiellement le contenu de son discours, mais même des moyens qu'il utilise pour le transmettre.
Oui.
Qui peut choquer, puis qui peut faire en sorte que certaines personnes se disent « Ben non, c'est pas comme ça, les rencontres, c'est 50 minutes, puis l'endroit où on passe notre message, c'est dans l'université,
oui.
ou dans des articles scientifiques.
Mm-hmm. »
Avec, il y a une méthode pour faire ce qu'on fait.
Oui. Mm-hmm.
Et donc, t'as raison quand tu dis que son rejet ou sa remise en question de l'institution universitaire a peut-être contribué aussi à la controverse.
Bien, c'est à se demander si finalement tous ces milieux-là, tu sais, aussi à partir du moment où un milieu se constitue, c'est s'il n'y a pas nécessairement par structure, par obligation, une forme de liturgie qui s'installe, des tabous tellement tabous que c'est impardonnable de les transgresser, puis des modes de fonctionnement qui sont proches de fonctionnements religieux, qui ressemblent à des fonctionnements religieux, sans religion, finalement.
Ouais. Puis des codes, hein? Il y a toutes sortes de codes, pareil, que l'être humain, que des institutions vont établir, que quand tu es à l'intérieur, que tu peux prendre des fois comme assez important, voire sacré. Ça fait partie de la façon dont il faut faire les choses.
Mm-hmm.
Mais que des fois, le passage du temps rend complètement caduque ou illusoire. Je pense toujours à... Quand tu es un amateur de lutte professionnelle, à certaines périodes de la vie, il y a eu des promotions de lutte qui faisaient dans un territoire, qui mettaient en scène des personnages qui faisaient semblant de ne pas s'aimer, mm-hmm. d'avoir un conflit,
mm-hmm.
puis de le verbaliser pour vendre des billets de gens qui iraient voir ce semblant de combat-là. C'est quand même, il y a du semblant en masse.
Uh-huh.
Mais là, de penser qu'il pouvait avoir, sur le même territoire, ce qu'il appelait un outlaw promotion. Fait que des gens qui respectaient pas certains codes établis par une certaine institution, puis qui venaient faire quelque chose de parallèle, mais uh-huh. de hors la loi, si tu veux.
Uh-huh.
Tu sais, pour des codes qui sont complètement inventés. Puis qu'avec le temps, quand tu vois ça 50 ans plus tard, tu te dis pourquoi le monde il saillissait autour de ce code-là, c'est complètement abstrait.
Oui.
Mais des fois, il y a ça, tu sais. Peut-être que dans 30 ans, 50 ans d'ici, l'université va avoir éclaté ses plateformes mm-hmm. d'une façon où ça ne sera pas une transgression de passer par d'autres moyens ou d'autres. Tu sais, de transmettre son savoir d'une autre façon. Ça va être. Tout le monde va faire ça. De la même façon qu'on ne dira plus peut-être dans 50 ans, ah ben, les journaux papier sont en voie de disparition à cause de Twitter ou à cause de YouTube, mais qu'il va y avoir une espèce d'infrastructure qui va faire qu'il va y avoir plein de façons.
Avec chacun ses codes, chacune ses rituels,
exact.
Et chacune sa délimitation territoriale.
Oui, jusqu'à temps que quelqu'un arrive, fasse tout éclater, hors la loi.